Nous voici de retour en petite rade où je vais pouvoir vous développer l'historique de la darse transatlantique qui se trouve droit devant. Cette darse n'existait pas lorsqu'en 1912 le Titanic vint à Cherbourg. Au début du XXe siècle, une gare maritime est construite sur le quai Lawton Collins, à la place d'une plus ancienne en bois située dans l'avant-port. Elle obligeait les paquebots avec leurs forts tirants d'eau, tels que le Normandie, le Queen Elizabeth ou l'Europa, à rester au mouillage dans la rade. La gare maritime ainsi que les quais ont été édifiés qu'à partir de 1928 par l'architecte René Levavasseur en collaboration avec les ingénieurs Chalot et Fleury. Auparavant, le rivage abritait un casino et la plage de Cherbourg. Le casino a disparu en 1943, rasé par les Allemands. La plage, quant à elle, a été comblée lors de la construction d'un môle de 10 hectares sur lequel a été inaugurée en 1933 la gare maritime, de style art déco, que vous avez sous les yeux. Alors, cette gare maritime de 20 000 mètres carrés pouvait accueillir deux paquebots et embarquer ou débarquer leurs passagers en un minimum de temps. L'hôtel Atlantique, au fond de cette darse, de couleur orangée, abrite à ce jour les bureaux de la Chambre de commerce et d'industrie. Alors, il a été édifié en 1921 face à l'afflux des candidats à l'émigration et un immeuble identique accueillait les immigrants à Ellis Island en face de New York. Un ancien paquebot, le Royal George, avait été amarré à la digue du Homay par les compagnies pour abriter 1500 personnes avant la construction de cet hôtel. Alors, il s'est avéré rapidement insuffisant. Pour exemple, en 1929, quelques 300 000 passagers passèrent par Cherbourg lors de 985 escales. La Cunard Line, la White Star Line et la Red Star Line, qui représentent les trois quarts du trafic cherbourgeois, décident de s'unir au sein de la société anonyme de l'hôtel Atlantique pour édifier un établissement moderne et adapté. Ils accueillent leur premier hôte en 1922. Alors la gare transatlantique, faite notamment de béton soufflé, était surmontée d'un campanile de 70 mètres qui fut malheureusement dynamité par les Allemands en 1944. Et la galerie couverte d'embarquement s'étendait sur toute la longueur du quai de France. Et l'accès au paquebot se faisait grâce à 9 passerelles métalliques se déplaçant sur des rails. Alors deux sont toujours présentes et classées, elles servaient durant les escales de paquebots et sont maintenant remplacées. Lors de la libération, une grande partie des bâtiments se trouve détruite. La Chambre de commerce entreprend alors sa rénovation dès 1948, dans sa quasi-totalité. Le campanile est remplacé par la construction d'un groupe de 4 tours toujours présent à l'heure actuelle. Le trafic transatlantique reprend de plus belle avec le Queen Mary et le Queen Elizabeth jusqu'aux années 1960. La décennie suivante voit le déclin de l'activité maritime du fait de la concurrence croissante de l'aviation. Alors la CCI cherche une issue de secours et entreprend le développement de la liaison Transmanche et du transit de marchandises. Plusieurs parties de la gare sont intentionnellement détruites pour développer les nouvelles activités jusqu'en 1989 où l'inscription au monument historique est acceptée, sauf 2 tiers de l'édifice. Alors depuis avril 2002, cette œuvre architecturale est réhabilitée en musée sur l'étude océanographique, et donc la Cité de la Mer, qui intègre le sous-marin Le Redoutable. Alors Cherbourg, de par sa rade, reste un port protégé et accessible à toute heure et par tous les temps. Il faut savoir que pour se rendre dans l'Est ou dans l'Ouest, il est fort conseillé de passer avec les courants portants. Il est donc un port d'attente idéal et par conséquent le premier port d'escale pour la plaisance en France. D'ailleurs, Vauban l'avait même surnommé l'auberge de la Manche. Alors, il accueille des courses au large, hein, telles que le Figaro, de nombreux rallyes anglais, la Dream Cup, ainsi que la Fastnet. Le port de plaisance dispose de 1537 places.